Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Nicolas Slimani. Cette semaine, donc, dans Culture Monde, nous partons à la conquête de l'espace. Demain, on parlera de l'entrée des entreprises privées dans le secteur spatial. Mercredi, ça sera la régulation par le droit d'un territoire encore vierge qui nous intéressera. Jeudi, nous nous questionnerons sur l'intérêt scientifique de l'exploration spatiale. Mais aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de rivalité spatiale. 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, la Chine, les États-Unis se lancent à nouveau à l'assaut de notre satellite le plus proche. Cet objet de fascination est surtout le symbole d'un rayonnement bien terrestre. Alors, viser la Lune, est-ce le meilleur moyen de dominer la Terre? C'est la question qu'on va se poser ce matin dans Culture Monde.
La Chine est sur le toit du monde et désormais sur la Lune, puisque pour la première fois, les Chinois ont réussi à envoyer un petit robot sur la face cachée de la Lune.
L'ensemble du processus s'est déroulé comme prévu. Le résultat était assez précis et l'alunissage était très stable. La sonde a atterri à l'endroit idéal. En d'autres termes, on est tombé pile sur notre cible.
Le temps est venu pour nous de faire le grand saut et renvoyer des astronautes américains sur la Lune, y établir une base permanente, développer les technologies pour mener les astronautes américains sur Mars et plus loin encore. La politique officielle de cette administration et des États-Unis est de faire revenir des astronautes américains sur la Lune d'ici 5 ans.
Au mois de janvier, la Chine réalisait pour la première fois l'exploit de se poser sur la face cachée de la Lune. 2 mois plus tard, les États-Unis l'annonçaient par la voix de leur vice-président Mike Pence, ils retourneront sur notre satellite naturel en 2024. Une avance sur calendrier de 4 ans par rapport aux prévisions initiales de la NASA. Ils devraient donc y reposer pied avant la Chine, qui prévoit sa première mission habitée à la fin des années 2020. Près de 30 ans après la fin de la guerre froide, l'attraction lunaire est-elle à nouveau à son paroxysme? La maîtrise de l'espace redevient-elle un attribut de puissance pour les États? La compétition peut-elle s'effacer au profit de la coopération? L'espace est-il un terrain d'affrontement comme un autre pour des inimitiés finalement bien terrestres? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Isabelle Surbès-Verger qui va arriver dans quelques instants en plateau, qui est géographe, chercheuse au CNRS au centre Alexandre Nkoyiré, qui est une spécialiste des questions géopolitiques de l'espace. Et pour l'accompagner avec nous en duplex de Toulouse, Sylvestre Maurice, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes bien déjà à l'heure parfaitement, Sylvestre Maurice, et je vous en remercie. Vous êtes astrophysicien, planétologue à l'IRAP, qui est un laboratoire de l'Université Toulouse, mais aussi du CNRS et du CNES. Vous avez participé à de nombreuses missions, notamment des missions russes, des missions chinoises. Donc vous êtes un spécialiste, au fond, de la coopération spatiale. Sylvestre Maurice, on fête là, cette année, les 50 ans des premiers pas sur la Lune, et c'est vrai que la Lune retrouve une certaine centralité dans les politiques spatiales. Il y a effectivement 2017 du côté des États-Unis un Donald Trump qui signe une directive qui ordonne à la NASA d'y retourner. Il y a la Chine, je le disais, qui a récemment posé un robot sur sa face cachée. Il y a la Russie, bien sûr, qui poursuit son programme pour cette mission robotique Luna 27 qui vise à explorer les glaces du pôle Sud. On a un Japon qui lui aussi prévoit l'envoi vers 2020-2021 d'un petit atterrisseur lunaire. On a l'Inde aussi qui projette d'alunir un robot mobile. Comment est-ce que vous comprenez ce grand retour de la Lune? Est-ce que c'est parce que, au fond, elle retrouve un certain intérêt scientifique et même peut-être commercial? Ou est-ce que c'est parce que, finalement, l'espace redevient un enjeu de puissance et que donc une nouvelle compétition se met en place et la Lune en devient assez naturellement un terrain de jeu? Sylvestre Maurice.
Une question complexe et qui a beaucoup de facettes. Alors, c'est vrai, vous avez raison, il y a un retour de l'intérêt pour la Lune. Il faut savoir que la Lune, on l'explorait énormément, on a fait plus d'une centaine de missions, c'était dans les années 60, ça s'arrête en 75 à peu près, les dernières missions Apollo, même s'il y a des petites tentatives ici ou là, et puis pendant 20 ans, ça va dormir, et la Lune va renaître au milieu des années 90, à la suite de découvertes un peu fortuites, de toutes petites missions qui vont découvrir de l'eau au pôle de la Lune, et tout le monde se dit finalement, la Lune, c'est pas si mal. Alors ça relance l'intérêt de la Lune, et en même temps, le monde politique a changé, le monde bilatéral, globale dans l'espace, hein, États-Unis, Union soviétique, devient le monde États-Unis, Chine, qu'on va retrouver sur la Lune. Donc, vous avez raison, il y a un nouvel engouement pour la Lune. Je dois dire qu'il est un petit peu par défaut, parce que l'engouement devrait être Mars, mais Mars est tellement compliqué, tellement inaccessible, qu'on a compris qu'il fallait repasser par la Lune. Alors, les ressorts, hein, vous demandez de cet engouement, et ben, je crois que vous les avez cités, c'est, il y a de la science, genre passager clandestin, hein, la science elle vient, elle accompagne le mouvement, il y a de la techno, on a des technos qui sont mûrs, on a envie de tester de nouvelles technologies, on a des industriels qui poussent très fort, et ils ont raison. On a un engouement sociétal, je crois que si vous interrogez les hommes dans la rue, ils vous diront tous, oui ben on aime l'espace, ça nous élève, ça nous permet de prendre du recul, et puis on l'a vécu en France avec les vols habités, celui de Thomas Pesquet bien sûr.
Évidemment, et puis, cet engouement il a toujours été
politique.
Là.
Ouais. Ouais. Oui, enfin, il a toujours été là, il y a quand même, c'est de l'argent, hein, c'est de l'argent du contribuable, c'est quand même des gros investissements, et on a des besoins. On a besoin de nourrir des personnes, on a besoin de prendre soin d'autres. Et donc, ce sont des choix politiques. Et justement, la politique est au centre de cette affaire, que ce soit la politique interne. Ce sont toujours des présidents qui vont décider de ce qu'on fait. La politique internationale, et effectivement, vous l'avez dit, il y a une affaire de gros bras dans cette histoire d'espace, bien sûr.
Eh bien, écoutez, justement, on accueille tout de suite Isabelle Surbès-Verger qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes un tout petit peu en retard, mais c'est normal, hein, quand on vient de la Lune, hein, c'est toujours compliqué d'atterrir.
Et surtout de la face cachée.
La Lune, c'est un nouvel espace par lequel on démontre sa puissance aujourd'hui. Comment est-ce que vous comprenez? Je faisais tout à l'heure, je rappelais toutes les différentes missions et projets de missions. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce que, à nouveau, au fond, il y a une guerre à la Lune et on démontre sa puissance par cette voie-là?
Je crois surtout qu'il y a une conjonction. La Lune, c'est le seul satellite naturel de la Terre. C'est celui que tout le monde peut voir, celui sur lequel on s'est beaucoup projeté autour des missions Apollo. Et pour des puissances spatiales relativement récentes, comme la Chine, mais aussi comme l'Inde, c'est une étape obligée dans la démonstration de capacités technologiques. Si bien que, si vous voulez, je pense que plutôt que cette reconstruction que l'on a faite d'une nouvelle course à l'espace et de la démonstration de puissance, et de l'opposition Chine-États-Unis, on a plutôt un concours de circonstances, à savoir que d'un côté, la Chine, elle fait étape par étape, et ça c'est vraiment le cœur de sa politique spatiale, l'acquisition des compétences que les États-Unis et l'Union soviétique ont eues avant elle. Et puis en même temps, les États-Unis se trouvent dans un vide d'objectifs, puisqu'ils n'ont pas décidé, pour différentes raisons, d'aller vers Mars, et que, comme le disait Sylvestre Maurice, ce qui leur reste, c'est le retour sur la Lune. Donc on va retrouver sur la Lune des puissances spatiales qui sont à des niveaux de développement qui restent encore très différents, avec des budgets qui sont quand même extrêmement différents. Les États-Unis ont un budget qui est au moins 5 ou 6 fois supérieur à celui de la Chine.
Vous nous refaites en quelques mots là, la hiérarchie justement des budgets pour voir un peu, pour avoir une idée un peu générale.
Oui, alors on va la faire très, très grossièrement, hein, mais globalement les États-Unis, on est à plus de 42 milliards de dollars, on va dire. Le deuxième budget spatial, ça serait le budget spatial européen autour de 8-9 milliards de dollars. On ne sait pas trop pour le budget chinois sur lequel il n'y a pas de chiffres officiels, mais mettons que selon les estimations on est entre 6 et 8 milliards, donc on est quand même bien loin. Et puis derrière vraiment, vous avez la Russie qui réussit à faire des choses quand même assez étonnantes pour ces 5 milliards de dollars et l'Inde qui est à moins de 2 milliards de dollars. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est l'effet des budgets cumulés, parce que les États-Unis sont à des budgets aussi énorme par rapport au reste de l'activité spatiale mondiale depuis 50 ans. Donc vous imaginez bien, il n'y a pas seulement le secteur privé qui en est bénéficiaire, on imagine bien l'effort de R&D extraordinaire qu'il y a. Pour autant, revenir sur la Lune, ça suppose pour les États-Unis de repartir, non pas de zéro, mais enfin de repartir avec des technologies complètement différentes. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire qu'ils vont décalquer les missions Apollo. Ce n'est pas de ça du tout qu'il est question.
Et puis, ce que vous dites aussi, Isabelle Surbès-Verger, c'est que dans tous les acteurs que vous avez décrits là, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, l'Inde, le Japon, on n'a pas tous forcément la dimension stratégique dans les politiques spatiales. Il y a évidemment certains acteurs pour lesquels c'est très important, les États-Unis et la Chine, peut-être peut-être que pour d'autres, c'est moins important.
Oui, mais même la Chine, c'est un phénomène assez curieux, parce que je me demande si ce n'est pas un petit peu les médias occidentaux et les États-Unis en premier qui ont construit cette figure de la Chine comme le grand compétiteur. Quand vous lisez les documents chinois, ne serait-ce que d'il y a 5 ou 6 ans, ils ont un livre blanc qu'ils éditent régulièrement, vous vous apercevez qu'ils sont au contraire très conscients des retards et ils expliquent comment ils vont les combler. Et puis, pour des raisons de politique internationale, hein, on a cette grande compétition dans un futur leadership qui est construite, là encore, par les États-Unis, d'opposition États-Unis-Chine. Et avec Xi Jinping aujourd'hui, c'est vrai que la Chine s'est totalement saisie de cette image qu'on lui renvoyait et qu'elle se prétend aujourd'hui, effectivement, comme un pays totalement leader et qui va reconfigurer la face du monde et donc qui va être un acteur majeur dans la conquête spatiale. Mais même aujourd'hui, je relisais encore les dernières déclarations officielles chinoises, ils ne parlent pas encore d'envoyer véritablement des hommes sur la Lune. Ouais. Ils disent qu'ils le feront, mais que ça suppose la maîtrise de beaucoup de technologies et qu'ils commenceront par de la robotique. Donc là encore, je pense qu'il y a un jeu et je crois que le rôle des médias là-dedans, en tant que caisse de résonance, est vraiment sans doute crucial.
Ouais, il y a une effervescence médiatique et politique qui peut-être a une influence sur les politiques spatiales. Sylvestre Maurice, comment les programmes sont pensés? Si on regarde par exemple du côté de la Chine, est-ce que lorsqu'on met en place un programme, on cherche effectivement à imiter son rival ou même à le rattraper, voire même à le dépasser dans un domaine particulier? Ou est-ce que quand même il y a une certaine complémentarité dans les programmes et on cherche au fond une certaine cohérence scientifique d'ensemble parce que, eh bien voilà, la communauté scientifique au fond elle est internationale et que le but est quand même d'avancer, Sylvestre Maurice?
Ah oui, alors les programmes, qu'ils soient scientifiques ou technologiques, faut être très raisonnable. Hein. Et Isabelle l'a très bien dit, il y a des étapes qu'il faut franchir. La Lune est probablement la première étape, et puis ensuite viendra Mars, les planètes géantes, etc. Il y a des technologies. Les programmes sont conçus dans le monde entier, souvent quand il y a une certaine maturité, je dirais, des pays, par ce qu'on appelle un bottom-up, c'est-à-dire une effervescence côté scientifique de la communauté qui essaie de faire donner des priorités, en fait, en disant, ben voilà, moi je veux aller à tel endroit pour telle raison, et puis ça va faire des projets qui sont très très ancrés dans la science. Je veux aller sur Jupiter pour répondre à telle raison, sur Mars pour telle raison d'origine de la vie, ou bien sur Mercure pour comprendre comment se forme une planète. C'est vrai que la Chine, puisque c'est un peu le cœur du sujet, a une approche un peu différente, puisqu'elle est dans ses étapes l'une après l'autre, je vais progresser. Elle dit, ben on va aller sur la Lune, et puis après on va décider de la science qu'on fera. Et en inversant le process, ils ont de fait des missions qui ont assez peu de contenu scientifique. On le regrette, il y a des missions là. Les 4 missions lunaires qu'on a vues de Chang'e 1, Chang'e 2, vous avez parlé de Chang'e 4 et sur la face cachée, ont malheureusement très peu de science. Mais c'est pas grave. Pour eux, ils disaient, comme Isabelle l'a dit, on pose les briques, on fait les savoir-faire, on a du retard. Et après, on va y mettre de la science et effectivement, on voit que dans les missions à venir, Chang'e 5, 6 et jusqu'à 8, on a le dessin, ou même les missions sur Mars, on voit la science arriver. Donc des fonctionnements finalement assez différents, parce que ça correspond à des maturités différentes. Et effectivement, la Chine est très très au courant de son retard technologique. Elle s'en cache pas du tout. Elle dit, ben voilà, on va le rattraper patiemment. C'est vrai que quand vous fonctionnez ainsi, c'est-à-dire vous dites, allez, tout le monde est aligné pour aller dans une direction, principalement la Lune et puis un petit peu Mars, et on verra après pour les planètes géantes, vous avez un certain gain d'efficacité. Alors que nous, avec notre maturité d'avance, on a probablement tendance à se disperser, à aller un peu dans tous les sens. D'ailleurs, les Japonais ont bien compris, ils ont dit on arrête de se disperser, on va se refocaliser sur certains objectifs, par exemple les petits corps. Nous, je dois dire qu'en Europe, aux États-Unis aussi, on a un peu du mal à se recentrer, et donc il y a de l'éparpillement, mais qui est sain pour la science. Un peu moins efficace.
Allez, on va rester sur la Chine. Retour en octobre 2016, un moment très important, le 17 octobre 2016. On envoie, quand je dis on, c'est la Chine qui décide d'envoyer 2 taïkonautes passer un mois dans l'espace. Archives. Voilà, une certaine effervescence au moment de ce départ. Alors ça faisait un moment, hein, Isabelle Sourbès-Vergès, que la Chine avait lancé ses premiers hommes dans l'espace. La première fois, c'était 2003. Quand on regarde un petit peu les choses, Isabelle Sourbès-Vergès, regardons dans le domaine politique et peut-être en particulier ce que le président actuel, Xi Jinping, a changé à la politique spatiale chinoise. Est-ce que vous diriez qu'il a effectivement redynamisé ce secteur-là et qu'à partir de son arrivée, oui, c'est devenu une nouvelle priorité, ou est-ce qu'au fond, il s'inscrit dans une certaine continuité, au fond, la Chine avance parce que c'est tout à fait dans l'ordre des choses et comme dans tout le reste, finalement?
Oui, alors la Chine avance parce que c'est dans l'ordre des choses. Il n'a pas déclaré de nouvelles grandes missions spectaculaires, ni mis a priori à disposition un budget supérieur. En revanche, il capitalise sur les acquis, hein, qui maintenant sont quand même réels, et il inscrit ça dans toutes les dimensions de la politique chinoise. Et ça, c'est peut-être aussi une des grandes originalités du spatial chinois, pour compléter ce que disait Sylvestre tout à l'heure. Et c'est aussi quelque chose qu'on a trouvé à une époque aux États-Unis et qu'on trouve moins, c'est cette capacité à intégrer les enjeux spatiaux dans des enjeux globaux nationaux. Et en particulier, quand même, pour la Chine, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pourtant essentiel, le spatial, c'est le moyen de compenser les déficits d'infrastructures qu'ils ont dans la gestion du territoire, qu'il s'agisse des télécommunications, qu'il s'agisse de l'observation de la Terre et donc de la cartographie, du suivi des catastrophes, etc. Mmh. Même sur le plan purement intérieur, sans parler du regard qu'ils vont jeter à l'extérieur grâce à tous ces satellites. Et par exemple, dans les documents chinois, vous avez un document particulier sur l'usage des satellites dans le développement des nouvelles routes de la soie. Ce qui est en même temps totalement évident, puisque des satellites de navigation, et la Chine développe son propre programme de navigation, des satellites de télécom et d'observation de la Terre, c'est effectivement indispensable au développement économique chinois intérieur et international. Donc cette idée globale du rêve chinois de Xi Jinping, il la concrétise, mais comme l'ont fait les autres présidents auparavant, hein, qui ont toujours utilisé les slogans appliqués à l'espace, il l'utilise et capitalise, et il y a cet effet de cumul qui lui permet d'en rajouter en quelque sorte, et sur lequel, comme je le disais, les Occidentaux font beaucoup, beaucoup caisse de résonance. Les Indiens, par exemple, alors vous me direz, ils sont concurrents potentiels des Chinois, mais c'est pas seulement ça. Les Indiens ou les Russes n'ont pas du tout cette effervescence concernant le développement du programme chinois qu'ils regardent de manière beaucoup plus détachée. Mmh. Et les Indiens ont leur propre programme lunaire qui mérite aussi considération et qui se déroule là aussi dans le temps avec le sentiment que eh bien, les choses adviennent quand elles sont prêtes, mais qui est aussi un programme ambitieux avec beaucoup plus de coopération internationale puisque l'Inde peut plus facilement coopérer avec le reste du monde.
On parlera évidemment de l'Inde, de la Russie, mais vous parlez de coopération et justement je me tourne vers vous, Sylvestre Maurice, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques jours, le président chinois est passé en France et que ça a été l'occasion d'annoncer la signature d'un accord sur une expédition scientifique sur la Lune à l'horizon 2023-2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Sylvestre Maurice? Quelle est la nature de cette future collaboration franco-chinoise dans le domaine spatial et dans le domaine lunaire en particulier?
Exactement. Ça, c'est très intéressant ce qui vient de se passer parce que ça montre comment fonctionnent nos collaborations. C'est un mélange de collaboration scientifique et de compétition. Vous avez régulièrement des appels d'offres. Et avant de partir de la Chine, je vais vous parler pour vous donner l'autre exemple, celui des Américains, qui disent, on a par exemple un lander qui va se poser sur Mars, on recherche un sismomètre. Qui dans la communauté internationale veut faire un sismomètre? Il se trouve que c'est la France qui le fait, qui sont les meilleurs pour ça. Et donc, les Français sont invités sur le lander américain à déposer un sismo. Ça, c'est le fonctionnement que je dirais normal. Une communauté ouverte où on cherche les meilleurs pour remplir un objectif donné. Et de temps en temps, on a une voie qui est un peu différente, c'est la voie politique. La voie politique, deux présidents se rencontrent. Je ne vais pas dire qu'on est des cadeaux de la République, mais c'est vrai qu'ils s'échangent des bonnes volontés. Et là, ensemble, ils disent, ben, collaborons sur plusieurs fronts. L'espace n'était pas le seul, clairement. C'est un peu emblématique. Eh bien, décidons que sur la prochaine mission qui est Chang'e 6, alors là, on est à Chang'e 4, Chang'e 5 sera un retour d'échantillon, Chang'e 6 sera un autre retour d'échantillon autour de 2023-2024, eh bien, les présidents décident avec leurs conseillers qu'il aura un instrument français. Et donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une compétition international. Ceci dit, on pense qu'ils ont fait la même proposition à tous les pays d'Europe. Donc, il va y avoir un petit appel d'offres quand même. On n'a pas décidé quel instrument ça serait côté français, mais on pense
qu'il va exister. J'ai entendu parler d'une caméra et d'un analyseur pour faire de la chimie du minerai.
Oui, voilà, ça fait partie des oui, il y a différentes options, une mesure de radon, une caméra à plusieurs résolutions jusqu'à la taille du grain pour voir la minéralogie de l'endroit où on va se poser. Et en fait, l'idée de cette mission, elle est très belle, hein, cette mission Chang'e 6. Pour moi, s'ils arrivent à la faire, d'ailleurs Chang'e 5 aussi, ils auront tout fait. Il faut savoir qu'en quelques années, ils ont été en orbite autour de la Lune avec les missions Chang'e 1, Chang'e 2. Ils se sont posés sur la Lune avec Chang'e 3 et U2, la pinte jade, le petit rover, et puis Chang'e 4 qui se pose côté face cachée, là, très bel exploit. Chang'e 5, c'est le retour d'échantillons. C'est ce qu'ont fait alors les Américains, c'est facile le retour d'échantillons parce que ce sont les astronautes qui ont ramassé leurs cailloux puis qui les ont rapportés. Vous savez qu'avaient fait les Soviétiques, les missions qu'on appelait Luna 16, Luna 20, Luna 24, qui étaient des missions automatiques. Donc là, ils vont encore passer vraiment un cap qu'on envie tous, ramener des morceaux de la Lune sur Terre avec des missions automatiques. Et lors de cette mission, il faudra bien sûr documenter le contexte d'où viennent les échantillons. Et là, nos instruments français ont peut-être quelque chose à jouer. Il y a quand même de la compétition en France, parce qu'on est plusieurs et c'est sain. Mais c'est vrai que la politique a un petit peu balisé le terrain dans ce cas-là.
Isabelle Sorbès-Verger, c'est intéressant parce qu'au fond, il y a des deux. Il y a des considérations scientifiques, techniques, et puis il y a aussi un peu des considérations politiques. Les deux entrent en jeu.
Les deux entrent en jeu. Bon, en même temps, je dirais que c'est un petit peu toujours le cas dans la science internationale. Vous avez à la fois de la coopération et à la fois de la compétition. Parce que derrière, il y a de la notoriété, il y a des budgets, il y a des publications. Et donc, il y a le devenir des équipes qui vont gagner. Donc, finalement, là-dessus, le spatial n'est pas d'une très, très grande originalité. D'autant plus que les deux présidents, quand ils se rencontrent, on peut quand même imaginer que le terrain a été un petit peu préparé par les conseillers et que, quand même, aujourd'hui, ça vient pas de nulle part et que le CNES aujourd'hui quand même a une politique de relations internationales, de présence internationale et de coopération dans le domaine scientifique qui est extrêmement riche et extrêmement intéressante et qui, je dirais, permet à la communauté spatiale française d'exister par elle-même en sus des programmes dans lesquels elle est dans le cadre de l'Agence spatiale européenne.
Alors justement, partons de la France et élargissons du côté de l'Europe. Je me retourne à nouveau vers vous, Sylvestre Maurice, parce que la France est déjà aussi engagé sur Mars avec la NASA cette fois-ci, avec des appareillages technologiques. En l'occurrence, je crois que c'est un sismomètre. Mais le CNES a également apporté son concours d'exploration d'une lune de Mars. On voit que la France est dans une logique, visiblement, de coopération tout azimut. Alors, comment l'expliquer ? On peut se dire que c'est formidable, bien sûr, et comme vous le disiez, parce qu'on est très très bon sur un certain nombre de choses, et donc on vient chercher les meilleurs. Mais on peut aussi se dire, peut-être, que eh bien, ça révèle peut-être une certaine faiblesse du cadre européen qui, au fond, n'est pas complètement en mesure de proposer ce que peuvent proposer d'autres, les États-Unis, la Chine, etc. Sylvestre Maurice.
Oui, alors, la France. Bon, la France, c'est deux choses. D'abord, des scientifiques, une communauté qui, je pense, est très forte, qui tient clairement sa place. Et en espèce, quand il s'agit d'explorer le système solaire, je dirais que c'est la deuxième communauté au monde, derrière les États-Unis pour la science. Et puis, une agence spatiale très forte, le CNES, et je dirais qui est très bienveillante pour la science, et avec, en ce moment, à sa tête, Jean-Yves Le Gall, son président, qui est vraiment... veut faire rayonner nos activités. Donc, on a comme ça ce terreau qui fonctionne bien. Mais il faut savoir que quand vous parlez de la Chine, quand vous parlez des États-Unis, ils vont concevoir des missions. Et même l'Europe conçoit des missions. Nous, en France, notre communauté scientifique, elle fait pas des missions, elle fait des instruments. Et c'était un peu le cumul ou la capitalisation dont parlait Isabelle. Et ben nous, on a cumulé, capitalisé pendant 50 ans sur des instruments qui peuvent être des sismos, qui peuvent être des caméras, qui peuvent être des analyseurs d'atmosphère. Et on a une certaine expertise qu'on nous envie et on vient nous chercher pour ça. Alors, on a comme ça, c'est un peu notre force. Les Allemands seraient un petit peu dans sa situation aussi de se dire, on a des instruments scientifiques de très haut niveau parce qu'on a eu du temps pour les développer et on va les placer soit aux États-Unis, vous l'avez vu, soit à l'Europe, soit à la Chine. Et n'oublions pas, parce qu'on ne le dit pas assez, c'est que la NASA, pour l'instant, interdit les collaborations directes entre les États-Unis et la Chine. Et c'est peut-être aussi notre chance à nous, les Européens, d'avoir ce nouveau partenaire, la Chine, tant que les Américains n'y sont pas encore. Donc, vous voyez, ça nous permet, nous, de développer, de pousser nos instruments partout. Et quand vous parlez de Mars, vous avez donné l'exemple du sismomètre, n'oublions pas qu'en 2020, parce que toutes les opportunités de lancement, c'est tous tous les 2 ans sur Mars, eh bien, on va avoir dès la même année un lancement d'un véhicule chinois, d'un véhicule européen et d'un véhicule américain. Donc, 3 rovers qui partent en même temps. Et c'est vrai que les Français sont les seuls à être sur les 3. C'est alors, assez étonnant.
Isabelle Sorbès-Verger, comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, effectivement, on voit là, Sylvestre Maurice dit avec beaucoup de fierté, il a raison, l'excellence française en la matière. Mais est-ce que, en face de cette excellence française, il n'y a pas aussi une petite faiblesse européenne qui ne serait pas en capacité, au fond, de mener les projets comme elle le souhaiterait?
Le spatial européen, c'est déjà compliqué parce que c'est la multiplication d'acteurs. Donc, vous avez d'un côté l'Agence spatiale européenne qui fait de la recherche et développement. Vous avez les programmes nationaux et quand même la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie sont des puissances spatiales significatives. Et puis, vous avez la Commission européenne qui commence à s'intéresser au spatial plutôt sur le volet application. Et donc là, elle a coopéré avec l'ESA sur Galileo, quand même programme de navigation européen, et sur Copernicus dans le domaine de l'observation de la Terre. Donc il faut faire jouer ensemble tous ces acteurs qui s'inscrivent dans des registres différents. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué et qui explique pourquoi finalement des États comme la France ou l'Allemagne ont aussi des coopérations bilatérales. Et donc quand, par exemple, j'avais fait une fois une carte des coopérations européennes, et c'est assez intéressant parce que on voit que de tous les pays au monde, l'Europe est celle qui correspond, qui coopère le plus avec le plus de monde. Sauf que c'est parce que j'ai additionné toutes les coopérations de tous les pays européens, plus celles de l'ESA. Et donc là, en réalité, vous avez de la perte en ligne, puisque comme disait incidemment Sylvestre Maurice, la proposition chinoise, par exemple, elle va être faite à beaucoup de pays européens. Elle ne va pas être faite seulement à la France. Alors, on peut espérer qu'on va réussir à combiner, mais enfin, on est en réalité avec un double standard qui est une agence spatiale européenne qui mérite quand même le respect et qui a le respect de la communauté internationale pour un certain nombre de grands programmes qu'elle fait. On a vu la rencontre avec les comètes, les échantillons, etc. Il y a véritablement une activité importante de l'ESA qui participe au programme martien, qui participera, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme, au programme de coopération autour de la Lune. Mais c'est vrai que c'est difficile, je dirais, de n'avoir qu'un... On n'apparaît pas comme un seul acteur parce que nous ne sommes pas un seul acteur et que à l'intérieur les communautés spatiales poursuivent en double chemin.
Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on n'a pas de projet de voyage sur la Lune comme peuvent l'avoir les États-Unis et la Chine. C'est moins évident, vous le disiez,
oui,
mais quand même.
Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que à un moment, l'Europe a plutôt choisi la voie de Mars que la voie de la Lune parce que ça paraissait plus prometteur sur le plan scientifique, hein, qui a quand même toujours cette idée que la Lune, on y revient, mais qu'on la connaît bien et que finalement, on fait ça un petit peu par défaut. Donc là, il y avait cette dimension européenne. Après, il y a eu un concept qui était intéressant, qui était le Moon Village, qui était porté par l'ESA.
On en parlera tout à l'heure avec Claudie Nuret, justement.
Voilà, et ce concept, finalement, il a du mal à prendre parce que, là encore, il est difficile pour une organisation comme l'ESA de porter un leadership. Mais par exemple, aujourd'hui, dans des coopérations avec le Canada, l'Europe spatiale, l'ESA a un accord particulier avec le Canada. Là encore, on essaie de voir s'il y a des choses différentes qui peuvent être faites, mais on est sur du bilatéral. Donc je dirais que dans le spatial, comme dans d'autres domaines, l'Europe souffre et d'une certaine façon peut-être bénéficie du fait d'être finalement à géométrie variable.
On parlera tout à l'heure justement avec Lédu Aigneret de ce projet de village lunaire. L'Inde, Sylvestre Maurice, on sait que l'Inde a un projet d'alunissage avec Chandrayaan 2, qui est une sonde spatiale lunaire et dont le lancement était prévu là pour ce mois-ci, mais il a été décidé finalement de le reporter pour des raisons techniques. Est-ce que vous pouvez nous présenter un tout petit peu ce projet et ce qu'il révèle aussi, Sylvestre Maurice? Tout simplement des ambitions spatiales indiennes.
Oui, on a été étonnés par les Indiens le jour où on les a vus démarrer avec leur mission qui s'appelait Chandrayaan 1, première mission lunaire, qui fut un succès, montée de façon très intelligente. Assez malin. Les Indiens sont très fiers de leur technologie, ils ont raison, ils ont une bonne technologie, ils ont un programme de fusée assez étonnant. D'ailleurs, le directeur du programme des fusées, quelques années après, un leader et même le président de l'Inde, c'est pour montrer cette connexion avec la politique. Et sur Chandrayaan 1, ils avaient décidé que la moitié de la charge utile, ça serait indien, et l'autre moitié sont des étrangers. Et il y avait un très bel instrument MQ, par exemple, qui est un instrument américain. Nous, les Français, avec les Anglais, on avait mis un instrument X. plusieurs instruments et ça leur a permis d'apprendre. C'était très très malin comme approche. Sur Chandrayaan 2, ils ont décidé, ils disent, non, ça y est, on a acquis de la maturité, ça va être une mission qui va être purement indienne, à part quelques toutes petites collaborations.
La Russie collabore donc, un petit peu quand même.
Voilà. Alors, les collaborations avec la Russie sont plus, pour le coup, sont très politiques. Sont très, il y a beaucoup d'échanges de savoir-faire. D'ailleurs, quand on regarde à certaines sondes indiennes, on sent qu'il y a une inspiration dans la volonté, je dirais quasi dans les formes de ce qu'on on fait les Russes, voire les Soviétiques. Donc, deuxième mission, dont je ne comprends pas bien personnellement le retard. On a un peu de mal à avoir une vision. Je ne sais pas bien ce qui se passe de ce côté-là. On est très peu engagé finalement. Très très bon démarrage de l'Inde, côté science, côté collaboration. Une petite fermeture ces derniers temps sur la mission Chandrayaan 2. Un petit peu étonnant. Peut-être que Isabelle en saura plus. Est-ce qu'il y a besoin de se retrouver entre eux pour... Alors, c'est une fierté en Inde populaire. Ce qu'ils font un peu comme les Japonais, c'est vraiment dans la rue où les gens parlent de cette mission avec une certaine affection, une certaine fierté.
Isabelle Surbesse-Verger sur cette politique spatiale indienne et puis peut-être en particulier sur la question de la collaboration entre l'Inde et la Russie, dont Sylvestre Maurice nous disait, elle est très politique pour le coup.
Elle est surtout très ancienne parce que le début du spatial indien, c'est de jouer finalement de son statut de pays non aligné et de coopérer avec tout le monde. Donc ils vont coopérer avec les Russes, vont coopérer avec les Américains, ils vont coopérer avec les Français et ils seront très heureux de cette coopération avec les Françaises, avec les Français qui va jouer aussi bien sur le lanceur que sur les satellites d'observation de la Terre. Donc là, il y a vraiment en Inde une très grande ouverture et cette idée que finalement l'Inde étant un pays développé, en voie de développement, qu'elle met en avant dès le début de son programme dans les années 60, il lui faut d'abord apprendre de tout le monde, il lui faut viser des applications et le programme d'application de l'Inde est assez extraordinaire de ce point de vue-là. Et puis ensuite, derrière, au fur et à mesure que son standard scientifique et que son développement économique se fait, elle devient à son tour une puissance spatiale. Il y a aussi les missions martiennes. Il y a eu ce coup de la mission martienne Mangalayaan qui a été réalisée par l'Inde et qui était très intéressant parce que finalement, ils ont compensé les difficultés qu'ils avaient avec un petit lanceur en choisissant une orbitographie particulière qui leur permettait de s'en sortir quand même. L'intérêt du spatial indien, c'est aussi un spatial, par exemple, qui marque beaucoup d'intérêt des jeunes générations. Et vous savez, le concours Google qui avait été fait pour un véhicule privé qui irait sur la Lune, l'Inde, avec l'équipe de Team Indus, a réussi ce concours. Finalement, ils ne sont pas allés sur la Lune parce que le concours a été suspendu suite à un problème de lanceur. Mais j'étais récemment en Inde et l'équipe de Team Indus vous montre dans la caisse le robot qui va partir, le module qui va partir d'ailleurs avec SpaceX. Et c'est assez intéressant, normalement, dans l'année prochaine pour aller sur la Lune. Donc, le spatial indien, il est fascinant parce qu'il réunit à peu près toutes les facettes. Alors, le politique, oui, bon, Abdul Kalam, il est devenu président de la République indienne, c'est un titre honorifique. Je ne suis pas sûre que ça ne soit pas tout autant parce qu'il avait développé les premiers missiles autant que les premiers lanceurs. Mais enfin, disons que ça fait partie de la complexité du personnage. En tout cas, c'est quelqu'un dont on voit le portrait pas mal en ce moment dans les rues de Bangalore.
On n'a pas encore beaucoup parlé de la Russie, on va le faire. Il faut se souvenir quand même que l'URSS, c'était les premiers à envoyer un homme dans l'espace, hein, souvenez-vous.
Минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.
12 avril 1961, c'est toujours très émouvant d'entendre évidemment cette voix qui, pour la première fois, s'adresse aux terriens depuis l'espace. Yuri Gagarin, le premier homme donc à s'envoler pour l'espace, pour y faire un vol de 108 minutes, jeune pilote de chasse à l'origine. Des origines modestes d'ailleurs chez Yuri Gagarin, c'était évidemment un souhait politique qui va devenir un véritable héros de l'Union soviétique. Isabelle Sommerès-Verger, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand on regarde un peu l'activité spatiale aujourd'hui, on a l'impression que la Russie n'y occupe plus la place que l'URSS, évidemment, occupait il y a encore quelques années. Comment comprendre ce relatif effacement de la Russie dans le spatial ? Est-ce que c'est seulement une question de moyens ? Est-ce que c'est un problème de stratégie ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je crois que c'est un problème d'héritage. La Russie a hérité de cet énorme programme spatial de l'Union soviétique, qui quand même était en déclin comme le reste de l'économie et du développement scientifique à la fin des années 90. Et elle a une difficulté à se réapproprier et à trouver surtout de nouveaux mots d'ordre à un spatial qui était très marqué par l'idéologie. C'est-à-dire que c'était vraiment l'élément dans lequel le régime communiste pouvait démontrer, sinon sa supériorité, ça c'était dans un premier temps, du moins au fil du temps, sa parité avec les États-Unis. Et il faut dépasser cette idée-là et il faut construire une nouvelle doctrine spatiale et une nouvelle politique spatiale. Et visiblement, la Russie est prise entre cette difficulté à réformer son outil industriel. Elle avait un secteur industriel tout à fait pléthorique. Hein, et donc, elle a vraiment une difficulté à le moderniser sur le plan technique, mettre des machines outils numériques, etc., etc., à le réorganiser géographiquement, puisqu'il s'étendait sur la totalité du territoire de l'Union soviétique, à redévelopper une base spatiale nationale pour des tirs géostationnaires et des vols habités, et c'est la base qui est actuellement en développement à Svobodny dans l'extrême-orient russe. Elle a fait deux tirs, malgré tout, d'essai de Soyouz, elle est en retard sur le lanceur Angara, etc., etc. C'est pas le plus inquiétant, je dirais, du spatial russe, parce que de toute façon, je rappelle quand même en passant que si on va encore à bord de la station spatiale internationale, c'est quand même toujours avec des Soyouz, et que, à ma connaissance, les États-Unis viennent de commander 3 Soyouz de plus pour être tranquilles au cas où ils auraient des problèmes. Donc, certes, elle est en retard. Son problème aussi, dans le domaine scientifique, c'est que vraiment, la science russe a été le parent pauvre et a perdu énormément de budget. En plus, l'Académie des sciences a été restructurée. Donc, beaucoup de difficultés diverses et variées qui font que la Russie est un petit peu en relais-effacement. Et puis, là encore, moi, je suis très étonnée de voir comment on va tout de suite mettre énormément de brillants sur tout ce que fait la Chine, éventuellement l'Inde, et comment on va systématiquement considérer avec un petit peu de scepticisme la Russie, même si, effectivement, la Russie traverse des difficultés. Le fait qu'elle coopère avec la Chine, parce qu'elle coopère aussi avec la Chine et avec l'Inde, et même, par exemple, avec un pays comme la Corée du Sud, montre qu'elle reste un acteur important sur la scène internationale.
Mais justement, sur les difficultés, Sylvestre Maurice, c'est vrai que ces dernières années, la Russie a connu quelques échecs un peu cuisants, notamment dans le domaine des lanceurs et des vols habités, dans lesquels, justement, précisément, ils sont historiquement, traditionnellement très bons. Il y a plusieurs ratages très importants. Il y a eu 2008 un dysfonctionnement qui avait causé un accident de la fusée Soyouz. Il y a 2016 un vaisseau cargo Progress non habité qui devait ravitailler la station spatiale internationale qui s'est consumé dans l'atmosphère très peu après le décollage. Il y a 2013 aussi cette fusée qui explose juste après son décollage de Baïkonour. 2011, le lancement de la sonde Phobos Grune qui échoue. Qu'est-ce qui se passe, Sylvestre Maurice ? Qu'est-ce qui fonctionne pas ?
Déjà, encore une fois, c'est un effet de perspective. Qu'est-ce qui fonctionne d'abord ? Vous mentionnez quelques échecs pour un nombre absolument incroyable de succès. C'est toujours le seul point, la seule façon de ravitailler. Et ils n'ont tué personne, fort heureusement, pour emmener des astronautes sur ISS et les ramener. Même s'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, encore un échec où il y a une éjection de la capsule, tout s'est très bien passé sur une procédure qui avait été pas testée depuis plus d'une trentaine d'années, quoi. Donc, disons d'abord des énormes succès, quelques échecs, et je laisserai Isabelle les commenter, mais surtout quant à la science, quant au volet scientifique, vous avez raison, pour une nation qui a tout fait, qui a fait toutes les premières, on se souvient de la première image de la face cachée de la Lune, quel exploit avec Luna 3, avec encore une fois ces retours d'échantillons des Luna 16, 20, 24, qu'on a un peu oublié parce que les Apollo étaient passés par là, avec des missions par contre martiennes plutôt ratées, et très peu de chance sur Mars. Le plus gros défaut, je dirais, de la science pour l'instant russe dans l'espace, c'est la crédibilité. En fait, ils ont toujours cette intention et ils nous parlent, par exemple, prenons l'exemple de la Lune, de Luna Globe, Luna Ressources, enfin comme ça, ils ont 5 missions dont ils nous parlent tous les ans depuis 10 ans et qui sont sans cesse reportées. En fait, c'est un problème probablement de visibilité, de compréhension de ce qui se passe, probablement d'organisation chez eux, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont dans les cartons, donc en permanence ils nous en parlent, et nous finalement on n'arrive plus à les croire, on n'arrive même pas à s'engager avec eux. Aujourd'hui j'irai voir l'Agence spatiale française en disant on peut mettre un instrument sur une mission russe, on me dirait ben t'es sûr de ton coup là parce que on n'y croit plus. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup, comme souvent dans ces affaires, une affaire de perception. Et effectivement, pour l'instant, les derniers Phobos Gondor étaient un échec pour Mars. On a eu Mars 96 qui était un vrai échec. On était à la fin des années 2000. Ensuite, on a eu, juste avant, il y avait les Phobos 1, Phobos 2 qui étaient des demi-échecs. Effectivement, quand t'as quitté l'orbite de la Terre, soit accompagner les Européens dans le cas, par exemple, de TGO, ils ne sont pratiquement plus là. Par contre, côté lanceur, j'insisterai beaucoup plus sur les succès que sur les échecs.
Ben voilà, je suis victime de cette vision que nous avons ici en Europe d'un spatial russe sur le déclin. Isabelle Surbès-Vergès, quand même, Sylvestre Maurice, je l'ai entendu, il a parlé d'un problème d'organisation. Il se trouve que précisément, ces dernières années, on a essayé de réorganiser le spatial. Vladimir Poutine a fait beaucoup de choses sur la question de la gouvernance, sur l'organisation des différentes agences, etc., etc. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ?
Parce qu'il a fait, mais il l'a fait sans donner de directive claire. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il faut regrouper en, à terme, 4 ou 5 holdings, toute l'industrie spatiale russe. Mais il n'a pas dit comment. Le mot d'ordre, c'est qu'il faut que l'on passe à un système dans lequel ces industries puissent un jour être ouvertes à un partenariat et éventuellement à des actionnariats privés. Mais en même temps, ils considèrent cette industrie comme stratégique et elle fait partie du complexe industriel de défense. Donc, il a créé une agence spatiale, puis il a intégré dans une, ce qu'on appelle une corporation d'État, qui est un système particulier en Russie, dans lequel vous avez un certain type de statut qui, théoriquement, vous fait une ouverture de l'entreprise d'État vers des entreprises de type plus privé. Et puis, finalement, il a changé le directeur de cette corporation d'État à la tête duquel il avait mis quelqu'un qui était habituel à la coopération internationale.
Pour
des raisons politiques et sans doute pour des raisons d'indécision. Je pense que la vraie difficulté du spatial en Russie, c'est qu'elle n'est pas au niveau de l'agenda politique, elle n'est pas sur le dessus du panier. Et donc finalement, c'est pas une question sur laquelle les hommes politiques ont tranché, parce qu'on parle toujours de Poutine, mais je doute en Russie qu'il soit réellement le seul. Et derrière, comme toujours dans un système de ce type-là, il y a des réseaux. Il y a un réseau très fort favorable au spatial. Il ne faut jamais oublier que le spatial soviétique était complètement impliqué dans les instances dirigeantes. Hein. Quand vous étiez le chef d'une grande entreprise du spatial, vous étiez soit au comité central, soit au politburo. Donc ces réseaux-là, ils n'ont pas complètement disparu, et en même temps, il joue la force d'inertie, et il n'y a pas de décision claire parce qu'il n'y a pas de choix politique clair sur ce que doit devenir ce spatial.
Alors, revenons sur l'Europe. Isabelle Surbès-Vergès, octobre 2015, le directeur général de l'Agence spatiale européenne, Jan Warner, déclare vouloir construire une base humaine permanente sur la Lune à l'aide d'une coopération internationale qui permettrait donc à terme de remplacer cette station spatiale internationale, mais aussi peut-être de servir de tremplin pour d'autres explorations plus lointaines. On va retrouver Claudie Aigneret, qui est évidemment astronaute, conseillère auprès du directeur général de l'ESA, la première femme française, bien sûr, à être allée dans l'espace. Vous participez, Claudie Aigneret, à ce projet de construction d'un village lunaire permanent. Racontez-nous peut-être comment ce projet est né et quelle est son ambition.
Effectivement, c'est non pas un projet, mais c'est une très belle vision, un très, très beau concept que celui de ce village lunaire. Et effectivement, je suis aux côtés du directeur général de l'Agence spatiale européenne pour essayer d'expliquer le concept et de faire en sorte qu'il puisse avoir une réalité à un moment donné. C'est vraiment un concept très ouvert de se dire que la prochaine étape pour l'humanité, eh bien, c'est effectivement de s'installer dans des infrastructures permanentes sur la surface de la Lune pour y vivre, y travailler et non plus simplement sur des explorations et des visites de courte durée comme ça a été le cas pendant les missions Apollo. Donc passer à quelque chose qui est du domaine de notre humanité, qui dépasse les frontières et qui est en expansion avec un contexte socio-économique tout autant que scientifique et technologique. et donc politique. Et l'idée du village, c'est de se dire, c'est peut-être un bon moment de penser pour ce futur de l'humanité, comment on pourrait le faire ensemble, avec des partenaires de diverses natures, bien sûr des agences institutionnelles classiques dans le milieu spatial, mais aussi des entreprises privées comme Amazon ou SpaceX.
Vous parlez de concept, Claudie Aigneret. Est-ce à dire que pour le moment, on en est seulement à la théorie et qu'on n'a pas véritablement pensé pratiquement comment est-ce qu'on pourrait mener à bout ce projet-là, ou est-ce que quand même on a pensé, notamment par exemple la question du financement, qui est évidemment essentielle. Aujourd'hui, on peut rien faire sans financement, et en particulier dans le spatial. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà commencé à réfléchir ?
Alors, des projets de base lunaire et de retour d'équipage sur la Lune, il y en a plein. Vous les voyez fleurir aujourd'hui dans toutes les actualités, que ce soit du côté chinois, que ce soit les déclarations américaines récentes. Et il y a plein de briques technologiques qui permettent cette phase de retour. Et si on considère ça comme une première étape du concept de village lunaire, il est déjà enclenché et d'ailleurs déjà financé. Donc c'est plutôt sur l'idée de le faire ensemble, de partager un intérêt commun, de le réfléchir dans sa distribution, son installation, son expansion, d'une façon qui n'est pas celle de la compétition, je dirais. Le financement, à la limite, n'est pas le premier problème. Mais aujourd'hui, sont financés des projets d'exploration habitée lunaire, mais cela ne résume pas du tout le concept de village.
Mais vous dites qu'ils ne sont pas dans la compétition. Vous évoquiez, et à raison, qu'effectivement il y a depuis un certain nombre d'années une montée en puissance très forte d'acteurs privés qui sont rentrés dans ce jeu du spatial. Vous évoquiez Jeff Bezos, le patron d'Amazon, mais aussi de la compagnie Blue Origin, Elon Musk, patron de Tesla, mais aussi de SpaceX. Comment est-ce que l'agence spatiale, justement, envisage la coopération avec ces acteurs ? Comment les embarquer dans un projet scientifique, civilisationnel quasiment, alors même que ils ont leur propre agenda, que leur priorité, ça reste quand même de leur faire gagner de l'argent, et c'est très difficile de les sortir précisément de cette logique de rivalité et de compétition. Comment on fait ?
Là, il faut prendre en compte, à côté des aspects sociétaux, et vous avez raison de le dire, sociopolitiques, les aspects économiques qui feront de cette aventure une aventure qu'on puisse dire durable, sustainable, à la fois durable sur le plan de l'environnement, parce que la Lune est un beau patrimoine de l'humanité, et il faudra être conscient de la responsabilité de l'humanité par rapport à cette expansion, mais aussi durable sur le plan de l'économie, et des modèles économiques qui peuvent, à la limite, être générés par ces entreprises privées. Imaginez du tourisme lunaire, imaginez des industries culturelles, de réalité virtuelle augmentée, d'imagerie de la Lune, imaginez bien évidemment l'exploitation de ressources minières. On est dans des schémas qui sont des schémas différents des schémas habituels de l'exploration habitée.
Et auxquels sont sensibles précisément ces acteurs privés que j'évoquais. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler à Jeff Bezos et Elon Musk, peut-être d'ailleurs, mais est-ce qu'ils sont enclins, vous les sentez ouverts justement à cette perspective ?
Alors, les deux grands acteurs que vous avez cités sont plutôt des acteurs qui sont, je dirais, même si c'est le New Space, quand on l'appelle, quelque chose d'assez classique, le transport spatial, l'accès à l'orbite, ou le dépôt, par exemple, de charges utiles sur la surface de la Lune, comme le propose Jeff Bezos avec Blue Origin. Après, il y a d'autres acteurs qui peuvent être les acteurs qui auront intérêt à être sur cette place de marché. On a affaire à des corps célestes qui sont à la fois des patrimoines de l'humanité, mais qui sont aussi potentiellement une sphère économique hors terrestre qui va de l'orbite basse, qu'on commence à bien connaître pour toutes les constellations habituelles, mais même pour l'utilisation d'un laboratoire en microgravité comme la Station Spatiale Internationale. Et aujourd'hui, il y a des partenaires privés qui sont intéressés directement à cette utilisation. Et puis, en dépassant l'orbite basse, et bien en allant, par exemple, la Lune, qui est dans notre sphère, mais au-delà de la sphère terrestre, et qui peut avoir un intérêt économique, et qui peut permettre d'avoir un développement. Alors là, on sera au-delà du village, le village commençant par une toute petite structure, et puis se faisant ensuite dans quelque chose qui, à la fois, devient autonome, techniquement, économiquement, mais ça, c'est pour dans quelques années. Mais la toute première phase, elle peut être très rapide.
Tout ça est évidemment extrêmement inspirant. Alors moi, je suis pas un spécialiste et je n'ai aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler justement cette structure lunaire. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a un élément qui est absolument indispensable à la vie et qui sera nécessaire évidemment à nos villageois lunaires, c'est l'eau. Comment est-ce qu'ils vont s'approvisionner en eau, ces villageois lunaires ?
Alors, l'eau, vous le savez aujourd'hui, les sondes automatiques ont montré qu'il y en avait des quantités importantes, en particulier sur les pôles de la Lune, des glaces d'eau. Et effectivement, aujourd'hui, les technologies qui sont en train d'être développées sont sur l'utilisation de ces ressources in situ pour rendre autonome la vie dans ce village potentiellement, avec l'extraction de ces glaces d'eau, leur transformation en oxygène, hydrogène, qui sont à la fois des éléments indispensables à la soutenabilité de la vie en autonomie et qui sont potentiellement aussi des carburants qui permettront de modifier complètement l'environnement du transport spatial. Mmh. Donc il y a vraiment tout un domaine très très large. Moi, j'ai vraiment l'envie qu'on aille au-delà de la base scientifique qu'on sait faire, je dirais aujourd'hui, que ce soit une base aujourd'hui en orbite, avec par exemple la fameuse plateforme, le Gateway que proposent les Américains à la coopération, mais qu'on aille au-delà de cette pure base scientifique pour installer quelque chose qui prenne une dimension d'expansion humaniste, comme je le disais précédemment, et qui permette à la fois de respecter ce bien commun, tout en respectant les intérêts individuels de communautés qui n'ont pas les mêmes intérêts pour se lancer dans cette aventure.
Merci beaucoup, Claudie Aigneret. C'était un plaisir de se projeter avec vous jusqu'à la Lune. Toute dernière question. Le 21 juillet 1969, à 2h56 du matin, vous faisiez quoi ?
Eh bien, j'étais devant l'écran de télévision, dans le camping où je passais mes vacances. J'avais 12 ans et je crois que c'est l'étincelle qui a beaucoup orienté ma vie par la suite. Et je pense que si justement on peut avoir des visions qui nous emmènent à regarder un petit peu au-delà de notre horizon du quotidien, c'est inspirant, c'est motivant et ça peut permettre vraiment d'avoir des vies très épanouies.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over.
Houston, Columbia, Navigate, over.
Roger, the EVA is progressing beautifully.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring's like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Merci infiniment à Claudie Aigneret d'avoir été avec nous. Je rappelle, donc conseillère auprès du directeur général de l'ESA et aussi, bien sûr, on s'en souvient, la première femme française à être allée dans l'espace. En 96, c'était la première fois et 2001, la deuxième. Merci également à nos deux invités, Isabelle Surbès-Verger, de nous avoir accompagnés ce matin pour cette première émission consacrée à l'espace, un peu plus près des étoiles. Merci infiniment.
Merci.
Merci également à Sylvestre Maurice qui était avec nous en duplex de Toulouse, qui est astrophysicien. Et puis planétologue à l'IRA, qui est un laboratoire de l'Université de Toulouse, du CNRS et du CNES. Isabelle Surbès-Verger, tiens, j'ai pas rappelé pour nos auditeurs, un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace, c'était chez Duno il y a une dizaine d'années maintenant. Il faudra évidemment, mais vous y travaillez déjà, j'en suis sûr, un nouvel ouvrage bien sûr sur la politique spatiale chinoise. On poursuivra demain bien sûr notre série consacrée aux étoiles. On parlera demain des acteurs privés qui montent en puissance dans le domaine spatial. Mais ça sera pour demain. 11h53, l'heure pour nous de retrouver notre étoile à nous, Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et ce matin, vous avez une bonne nouvelle pour notre collègue Alain Finkielkraut.
Oui, je souhaite informer notre académicien maison que l'essayiste Paul Berman vient de publier sur le site Tablette un long plaidoyer en sa faveur sous le titre « An enemy of the people ». On connaît Paul Berman en France où deux de ses essais ont paru dans notre langue, « Les habits neufs de la terreur », une méditation sur le terrorisme islamiste, et « Cours plus vite, camarade », qui était une histoire intellectuelle de la génération 68 en Europe, à laquelle il appartient lui-même. Quant à Tablette, c'est le principal site intellectuel juif aux États-Unis. Alors, ce qui a provoqué la montée au créneau de Paul Berman, c'est d'avoir visionné la fameuse vidéo où l'on voit Alain Finkielkraut se faire agresser verbalement en pleine rue par des gilets jaunes qui lui crient « Elle est à nous, la France !» et « Sale sioniste, retourne en Israël !» C'est d'autant plus atterrant, écrit Berman, que Finkielkraut a été l'un des rares intellectuels français à soutenir ce mouvement et que, s'il a constamment soutenu le droit à l'existence d'Israël, il a toujours sévèrement critiqué les implantations dans les territoires occupés. Émile Zola a dit que l'antisémitisme était une imbécilité. Et bien, dans le cadre des injures adressées ce jour-là à Finkielkraut, il entrait plusieurs sortes de bêtises antisémites. Un antisémitisme de gauche, mêlant une protestation socio-économique au racisme. Un antisémitisme populiste, le peuple contre les juifs. Un antisémitisme islamiste, le plus véhément des agresseurs appartenait manifestement à cette mouvance. Mais l'essentiel est ailleurs. Pèse sur Alain Finkielkraut le soupçon de nourrir de sombres pensées réactionnaires, écrit Berman. Or, des écrivains tels que Michel Houellebecq, Pascal Bruckner ou Georges Bensoussan savent d'expérience que de tels soupçons peuvent dorénavant vous conduire devant les tribunaux. Je cite « La multiplication de ces procès renforce en France l'impression que la vie intellectuelle se tient au bord de l'inadmissible, que la littérature est voisine du crime et que certainement certains de ces intellectuels sont des ennemis du peuple et devraient être punis. » Dans les médias intellectuels, je cite toujours, il est parfois assumé qu'une gigantesque bataille idéologique entre progressistes et réactionnaires constitue la vérité ultime de la vie intellectuelle, poursuit Berman.
Brice, on reproche parfois à Alain Finkielkraut en France de 1968 d'avoir dérivé vers la droite.
Oui, et dans son dernier livre, le gauchiste israélien Shlomo Sand écrit de Finkielkraut, je cite, « En vérité, ce n'est pas encore le fascisme ». Cela a dû faire un drôle d'effet à un écrivain qui a pu contempler le numéro tatoué par les SS sur le bras de son père et dont les grands-parents ont disparu à Auschwitz. Finkielkraut l'a dit et l'a répété, s'il se sentait des sympathies pour la droite politique, eh bien mon Dieu, il n'en ferait pas mystère. Mais quel sens cela a-t-il de vouloir rendre compte de son œuvre avec cet unique critère ? Lorsqu'il traite des relations érotiques hommes-femmes en littérature, des romans de Milan Kundera ou des intrigues de Philippe Roth, est-il de gauche ou de droite ? Le président Macron s'est indigné de l'agression dont Finkielkraut a été victime en le qualifiant d'homme de lettres. Et c'est bien vu, il s'agit d'un homme de lettres et non d'un idéologue ni d'un politicien. En tout cas, dit Berman, si être de gauche en France, c'est persister à considérer que les maux sociaux peuvent être traités parce qu'ils ont leur origine dans l'histoire et non dans la nature humaine, si être de gauche en France, c'est préférer l'histoire de la Révolution de 89 dans la version de Michelet et non celle de Burke, alors pas de doute, Finkielkraut est resté à gauche. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut remonter à l'affaire Dreyfus pour comprendre l'originalité de l'œuvre de Finkielkraut. Face au capitaine Dreyfus, il y avait quatre positions. Celle de la droite consistait à refuser les preuves et les faits au nom de l'instinct patriotique. L'amour de l'armée qui défendait le sol et le sang de la patrie devait primer sur toute autre considération. Celle des marxistes, et en particulier de Karl Liebknecht, était de considérer qu'il s'agissait là d'une affaire entre bourgeois. La quête de la vérité était ramenée par eux à une politique des identités sociales. Les prolétaires avaient raison, les bourgeois tort. La gauche républicaine, avec Zola, appelait à s'en tenir aux faits, à faire preuve de logique et de rationalité. Mais il y avait une quatrième position, celle de Peggy. Peggy reconnaissait l'innocence de Dreyfus, mais ne s'identifiait pas au rationalisme cérébral de Zola et de ses amis. Son culte des émotions, son patriotisme mystique, le rapprochait de la droite. Mais ce même amour de la légende française en a fait un Dreyfusard. Eh bien, Finkielkraut, dit Berman, est l'héritier de Peggy, auquel d'ailleurs il a consacré un livre. Les intellectuels de gauche patentés sont, dit-il, congelés dans une idéologie qui remonte au marxisme des années 1890. Ils ont substitué à la contradiction exploiteur-exploité la nouvelle version européen blanc versus personne venue du tiers-monde. Alain Finkielkraut, fidèle à Peggy, dit que les véritables victimes des crimes racistes dans la France d'aujourd'hui, ce sont encore des juifs et non pas les musulmans, comme tant d'intellectuels de gauche aimeraient le faire croire. Et c'est justement cela qu'on lui reproche.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.